situation sécuritaire à Rutshuru dans le Nord Kivu, la position du gouvernement congolais ne changera pas dans les négociations pour rétablir la sécurité et la paix dans l'est de la RDC. Il faut que le M23 quitte d'abord Bunagana avant de poursuivre les dites négociations. Propos du ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya. Il s'est ainsi exprimé lundi 18 juillet au cours d'une conférence de presse en réaction à la proposition du président ougandais. En effet, Yoweri Kaguta Museveni a préconisé jeudi 14 juillet comme solution dans les combats qui opposent les FRDC aux rebelles du M23 que toutes les parties gardent leur position actuelle après la déclaration d'un cessez-le-feu. Il avait fait cette proposition dans un échange avec une délégation congolaise conduite par le ministre des ITPR, Alexis Gisaro, à la State House à Entebbe en Ouganda. Pour rappel, cela fait plus d'un mois que la cité de Bunagana est toujours occupée par les rebelles du M23. Quelle lecture faire de la persistance de cette situation d'insécurité dans Bunagana? Nous en parlons ce soir avec Emmanuel Ngarouye Mouzi. Il est député provincial élu de Rutshuru au Nord Kivu. Emmanuel Ngarouye Mouzi, bonsoir.
Bonsoir madame la journaliste, bonsoir à tous les co-débatteurs et aux nombreux auditeurs de la radio Kaku.
Maître Higen Miviri, avocat et chercheur à Ebouteli, partenaire de recherche du groupe d'études sur le Congo, GEC en sigle. Maître Higen Miviri, bonsoir.
Bonsoir.
Et le professeur Serge Tshibangu qui va nous rejoindre dans un tout petit moment. Lui, il est mandataire spécial du président de la République et chef de la délégation de la présidence de la République aux consultations de Nairobi. Vous êtes déjà très très nombreux à donner vos points de vue sur le thème de ce soir. C'est le cas de Amatour Bagula depuis Bukavu Sud Kivu. Je pense que notre gouvernement doit oublier le terme négocier avec le M23. Il faut plutôt chercher un partenaire crédible et sincère qui peut aider la RDC à bien traquer ce groupe armé et surtout que notre gouvernement l'a déjà qualifié de mouvement terroriste. Maître Fabrice Sambili de Beni au Nord Kivu, à mon avis, l'option responsable pour le gouvernement congolais serait d'imposer la paix en frappant cette force négative. Ils ont pris Bunagana par la force, ils doivent être chassés par la même force. C'est la meilleure façon de se faire respecter. À Matadi, dans la province du Congo central, vous nous suivez sur la sonde 2.0. Et si vous êtes en dehors du pays, merci de nous rejoindre sur www.radioocapi.net ou encore sur Canal+, channel 572. Bonsoir et bienvenue à tous dans votre magazine.
Radio Okapi. Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiookapi.net.
Depuis le début du mois de mars, la situation sécuritaire et humanitaire se détériore dans les territoires de Rutshuru. Des affrontements entre les M23 et les forces armées de la RDC ont poussé des milliers de familles à chercher refuge dans des zones plus stables ailleurs dans le pays et dans l'Ouganda voisin. Depuis une semaine, un calme précaire règne dans la zone de combat qui oppose l'armée congolaise aux terroristes du M23 dans le territoire de Rutshuru au Nord Kivu. Le point sur la situation avec vous, Guy Mathé et Bernardin Nyangi.
Bonsoir Bernardin Nyangi.
Bonsoir Guy Mathé.
Quelle est la situation qui prévaut aujourd'hui sur le front entre le M23 et l'armée régulière?
Oui, il convient en préambule de noter, Guy Mathé, que depuis 7 jours, une accalmie est observée sur la ligne de front entre les FARDC et les rebelles du M23 dans le territoire de Rutshuru. Les derniers échanges de tirs qui avaient opposé les deux belligérants remontent à mercredi de la semaine dernière dans les localités de Kanombe et Ruvumu, c'est dans le groupement de Kisigari. Les sources de la société civile notent au passage de cas de pillage, surtout des récoltes dans les champs de population en déplacement, et cela se passe dans la zone qui est occupée notamment par les rebelles. Les FARDC maintiennent pendant ce temps leur position vers Wanguba et sur l'axe Bunagana et vers aussi Rumangabo du côté de Kisigari. Il faut signaler que selon les sources onusiennes, dans le cadre des efforts de protection des civils, les casques bleus de la MONUSCO déployés dans la zone ont lancé depuis jeudi dernier une patrouille de domination des terrains entre le pont Rwanguba et le village de Kabindi, non loin de Bounagana. C'est pour atténuer les menaces, surtout sur cette zone tampon qui est entre les deux belligérants et FARDC 23 sur le tronçon routier retour Bounagana.
Et quelle est la situation économique et quelles sont les conditions de vie des populations à ces jours? Sont-elles toujours totalement en fuite ou il y a quelques-uns sur place ou de retour?
Les populations, surtout du groupement de Djomba en majorité, ainsi que celles de quelques villages de groupement voisins de Boussanza au nord de Djomba, ainsi que quelques autres villages de groupement Gisigari et Bouéza, sont en perpétuel déplacement, comme vous le savez. Quelques déplacés tentent d'arriver dans le village fantôme pour s'approvisionner en nourriture, mais à leurs risques et périls. L'axe routier Routchour-Bounagana reste toujours fermé à tout trafic. Et d'ailleurs, c'est pour permettre que les élèves finalistes du secondaire, notamment de Kanombe, groupement de Boussanza, vers la frontière avec l'Ouganda, d'atteindre leur centre de passation d'examen d'État, que les casques bleus de la MONUSCO sont intervenus dimanche. Au moins 400 élèves ont bénéficié de cette escorte depuis Kanombe vers la frontière avec l'Ouganda, comme je le disais, jusqu'à retour au centre, une vingtaine de kilomètres plus à l'ouest.
Et les appels de ces jours ou les actions diplomatiques de ces derniers jours ont-ils un effet quelconque sur l'occupation des localités occupées ou sur les intentions du M23?
Difficile à notre niveau pour le savoir, du fait que l'armée ne se prononce pas en tout cas sur les raisons de cette accalmie et nous avons peu de connaissances sur la position du M23 quant à ce. Mais selon quelques indiscrétions, du fait que la RDC s'est engagée dans le front diplomatique et aussi politique, notamment avec le Rwanda, et même l'Ouganda, les FARDC sont sommés de respecter l'appel de cesser le feu pour donner la chance à ce processus de paix. Mais il est vrai, et c'est confirmé par plusieurs sources officielles, les militaires engagés dans ces opérations sont toujours en état d'alerte, Guimaté.
Merci à vous, Bernardin Nyangui.
Merci à vous.
Emmanuel Ngahouye-Mozi, vous êtes député provincial élu de Rutshuru au nord Kivu. Vous venez de suivre ce tableau peint de la situation sécuritaire, humanitaire, économique dans le territoire de Rutshuru. Est-ce que vous avez d'autres détails à ajouter par rapport à ce tableau qui nous a été peint par Guy Maté et Bernard Nyangui?
Merci beaucoup, madame. Je commence par compatir avec mes compatriotes, nombreuses victimes, nombreuses familles victimes de la barbarie de ce M23. Je ne sais plus les appeler terroristes parce que le gouvernement qui les a appelés terroristes aujourd'hui commence à penser à les négocier, ce qui est très déplorable. La population s'est dit extrêmement, vraiment déçue, trahie. J'ai combattu avec cette population parce que nous ne passons pas deux jours sans enregistrer au moins un cas de décès par famine. Nous ne passons pas un seul jour sans avoir enregistré un cas d'une femme victime de violences sexuelles dans les entités occupées par le M23. Et cela s'ajoute à nombreuses personnes tuées dans les entités contrôlées par ces rebelles, c'est-à-dire dans les groupements de Djomba, dans les groupements de Bouéza, dans les groupements de Kisigari. Et donc, je condamne cette barbarie, mais je condamne également le fait que le gouvernement central, le gouvernement provincial et tous les humanitaires ont abandonné cette population qui a fui depuis le mois de mars sans aucune assistance. Et je suis en train de penser que peut-être comme les dirigeants de la République ont des comptes bancaires, ils croient que même ceux qui ont fui leur milieu ont des comptes bancaires et là où ils ont fui, ils peuvent retirer pour vivre de leur argent. Alors que nos populations sont des populations agricultrices qui vivent de leur champ. Une fois séparés de leur champ, ils sont séparés de leurs sources de vie.
Alors Emmanuel Ngahouye-Mozi, le porte-parole du gouvernement, a déclaré que la position du gouvernement congolais ne changera pas dans les négociations pour rétablir la sécurité et la paix dans l'est du pays. Il faut que le M23 quitte d'abord Bounagana avant de poursuivre les dites négociations. Il a dit hein, en réaction à la proposition du président ougandais Museveni qui a préconisé comme solution dans les combats qui opposent les FRDC aux rebelles du M23 que toutes les parties gardent leur position actuelle après la déclaration d'un cessez-le-feu. Quelle est votre lecture?
Je suis tellement étonné de voir que notre président semble avoir des voisins qu'il ne maîtrise pas. Parce que celui qui vit au Congo, plus particulièrement qui vit à Rutshuru, il sait que la RDC est agressée par ses voisins, l'Ouganda et le Rwanda. Et ces agressions ne sont pas les premières. C'est depuis 1996 que nous enregistrons des agressions régulières de ces deux pays. Alors lorsque notre président estime que ce sont ses agresseurs qui devront lui conseiller comment gérer les dossiers des personnes créées par les mêmes voisins, je crois que c'est chercher, comme je l'ai dit avant, la solution ou la thérapie de son malade chez son sorcier. Le président Museveni aujourd'hui commence à narguer le gouvernement congolais en montrant que les M23, ils sont donc légitimes, ils doivent rester là où ils sont et le gouvernement doit rester là où il est. Les membres du M23 actuels, ceux qui apparaissent, sont les mêmes qui étaient là en 2013. Ce sont les mêmes qui étaient là lors du CNDP. Et le gouvernement, à cette époque, le responsable de l'ANR, Kalev Mutonde, avait déposé une liste des officiers récidivistes qui n'étaient même pas congolais, qui s'étaient battus dans la guerre du FPR comme de Rwandais, mais aujourd'hui qui reviennent dans les différentes guerres du Congo et intègrent ou veulent intégrer l'armée congolaise.
Emmanuel Ngaruye, vous n'êtes donc pas d'accord avec les propos du porte-parole du gouvernement?
Je m'inscris vraiment en faux. À ces propos, c'est vraiment un regret. Et toute la population se pose la question de savoir qu'est-ce qui manque pour mettre en déroute ces M23 alors que l'armée et la population sont tous prêtes à pouvoir s'entraider en fait que la RDC ne soit pas éternellement humiliée.
Peut-être parce que, selon certaines indiscrétions, le fait que la RDC s'est engagée sur le front politique et diplomatique, notamment avec les pays voisins, c'est peut-être la raison qui pousse l'armée de ne plus continuer à combattre les M23.
Exactement, il y a un problème. Lorsqu'on ne sait pas ce qu'on cherche, on trouve ce qu'on ne comprend pas. Lorsque le président de la République engage la RDC dans l'East African Community. Le même mois qu'il s'y engage, les membres de l'East African Community attaquent la RDC et ils recourent à ces mêmes agresseurs pour trouver solution à la RDC. C'est vraiment un biais grave. Et lorsqu'il va en Angola, et le président angolais a intervenu aussi dans les conflits, dans les faux conflits qui existeraient entre le président Kagame et le président Museveni. Mais d'un coup, les conflits, on ne sait pas comment ils s'est terminé et directement ils sont devenus des alliés contre le Congo.
Plus d'un mois que Bounagana est entre les mains du M23, certains observateurs pensent que ce long moment risque d'être une occasion pour le M23 de se réorganiser.
Exactement, c'est un temps qu'on leur donne pour s'organiser et toute la population se pose la question de savoir pourquoi les FARDC n'ont jamais attaqué les rebelles du M23. C'est toujours le M23 qui attaque et lorsque le M23 cesse d'attaquer, les FARDC restent là où elles sont. Et tout cela, selon donc la population, c'est que il y a une autorité politique au-dessus qui les empêche de se battre. Et c'est ce que la population considère comme une trahison, alors que la population a refusé de cohabiter avec les rebelles et la fuit parce qu'elle connaît ces rebelles comme étant des criminels. Mais lorsque les fuit en faisant confiance au gouvernement, le gouvernement tente de les trahir. Non seulement qu'elle ne s'assiste pas, mais elle ne déploie pas des efforts pour libérer leurs entités.
Maître Rigen Niviri, vous êtes avocat et chercheur à Ebouteli, partenaire de recherche du groupe d'études sur le Congo, GEC en sigle. Quelle lecture vous faites de la persistance de cette situation d'insécurité dans Bounagana?
Merci madame pour l'invitation. Je dirais en fait que cette situation semble en fait être normale pour certains acteurs parce qu'en fait c'est une façon en fait, comme vous l'avez dit, c'est presque une guerre où on cherche en fait à forcer l'autre partie à prendre telle ou telle autre décision. Et comme on le disait encore dans l'autre édition, on a vu en fait que les négociations sont appelées de tous bords. Il y a le M23 qui veut négocier directement avec le gouvernement congolais. Il y a eu des appels pour que le gouvernement congolais puisse négocier avec ses voisins. Et déjà, il y a un processus en cours, le processus de Luanda. Et donc, je crois que tout le monde pense que la solution n'est pas militaire. Et en tout cas, quand on regarde la situation sur le terrain, la solution militaire semble montrer ses limites, même si paradoxalement, on entrevoit d'amener une force régionale qui va peut-être refaire ce qui a déjà été fait, notamment par la MONUSCO, mais aussi par les opérations conjointes entre la RDC et l'Ouganda. Et donc, je crois qu'en fait, la voie de sortie, c'est les négociations. Mais les négociations avec fort de l'expérience de ces dernières années, personnellement, j'ai des réserves sur l'opportunité de négocier directement avec la M23. Et ça, c'est pour deux raisons. Tout d'abord, il y a déjà eu des négociations. Et en 2013 et 2019, la M23 a obtenu du gouvernement congolais des concessions. Mais celles-ci n'ont jamais été mises en œuvre. Et c'est là que j'arrive à la deuxième raison. En fait, il ne faut pas négocier parce que, en fait, peut-être on n'a pas été capable de satisfaire les premières concessions. Il faut plutôt se demander pourquoi le gouvernement congolais n'est pas capable de satisfaire ces concessions. Peut-être c'est tout simplement parce qu'en fait, ces concessions-là sont incompatibles avec un état de droit. Et donc, pour ces deux raisons-là, je suis dubitatif quand il s'agit de négociations. Mais en revanche, je pense qu'il faut plutôt continuer à penser, à parler avec les États voisins, notamment l'Ouganda et le Rwanda, de manière sincère.
Malgré que le Rwanda est accusé d'être soutien du M23, il faut continuer à parler avec ce pays.
Oui, je le crois, parce qu'en fait, ce sont des États souverains. Parler avec le Rwanda ne signifie pas accéder aux demandes du Rwanda ou à ses intérêts. Il s'agit plutôt d'aller lui dire exactement ce que le Congo pense être la solution à ces conflits, mais aussi lui dire en fait ce que le Congo ne pourra pas tolérer, et la même chose pour l'Ouganda. Donc, je pense qu'on ne peut pas, sur la scène internationale, on ne peut pas ne pas imaginer en fait que les États continuent à dialoguer, même dans une situation de tension.
Merci, Maître Rigel Miviri. Je vous redonne la parole tout à l'heure. Nous devrions avoir le professeur Serge Tshibangu, mandataire spécial du président de la République et chef de la délégation de la présidence de la République aux consultations de Nairobi dans cette émission. Malheureusement, il a eu un empêchement, mais à la place, on a Giscard Koussema, directeur adjoint de la cellule de communication de la présidence de la République. Giscard Koussema, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Je voudrais prendre les propos du porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, qui a déclaré que la position du gouvernement congolais ne changera pas dans les négociations pour rétablir la sécurité et la paix dans l'est de la RDC. Il faut que le M23 quitte d'abord Bunagana avant de poursuivre les dites négociations. Faut-il comprendre par là que le gouvernement est aujourd'hui prêt à négocier avec le M23, un mouvement qualifié de terroriste, mais à la seule condition que ces derniers puissent quitter Bunagana?
Écoutez, madame, je ne vais pas m'exprimer ici au nom du gouvernement de la République. Le porte-parole est mieux placé. Mais ce que nous pouvons vous dire aujourd'hui, c'est que la situation que vit la République démocratique du Congo remonte de plusieurs décennies. Et plusieurs approches ont été tentées pour essayer de résoudre la crise. Aujourd'hui, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est engagé sur plusieurs fronts dans le même souci de pouvoir trouver une solution durable. Il s'agit ici du front militaire, évidemment, en premier lieu, et du front diplomatique, judiciaire et puis médiatique. En ce qui concerne la résolution de cette crise, il existe aujourd'hui deux références. La référence, c'est le processus de Nairobi qui met fin à toutes ces stratégies qui ont abouti à de mixages, brassages, bref, une prime selon le degré de nuisance de ceux qui ont pris les armes. Deuxièmement, l'approche du président de la République a permis aujourd'hui de connaître le vrai acteur de ce qui se passe sur le terrain. Depuis plus de deux décennies, on parlait d'une guerre par procuration, on a parlé de groupes armés locaux, mais aujourd'hui, à la suite de ces échanges interactifs avec ceux qui ont pris les armes, donc les groupes locaux, il est donc apparu clairement qu'il existe bel et bien des groupes armés locaux qui ont souscrit au processus amorcé par le président de la République et soutenu au niveau régional et même international. Et puis, il y a ces groupes réfractaires qui, en réalité, sont des bras armés de pays voisins qui agissaient
exclus de Nairobi.
Voilà, exactement. Et donc, aujourd'hui, il est clair que les interactants sont connus. Ceux qui ont pris les armes contre leur pays sont connus. Il s'agit des groupes armés. Leurs raisons ont été évoquées clairement par eux-mêmes. Il ne s'agit pas ici de combattre le pouvoir de Kinshasa, mais plutôt de se battre parfois contre le pays agresseur et qui exploite certains Congolais pour agresser notre pays. Donc aujourd'hui, le narratif a changé. Nous sommes bel et bien dans une guerre, nous sommes dans une guerre d'agression dont les acteurs sont connus et qu'ils sont mis devant leurs responsabilités et sont c'est avec ceux-là, ok, avec lesquels d'ailleurs le président de la République essaie de parler dans tous les forums, qu'il s'agisse des Luanda, qu'il s'agisse du Kenya et tous les restes.
Mais aujourd'hui, ça fait plus d'un mois que Bunagana, la cité de Bunagana dans le territoire de Rutshuru au nord Kivu, est entre les mains du M23. Ces rebelles, ils font la loi. Le gouvernement a-t-il abandonné cette cité?
Non, ce que les Congolais doivent savoir, c'est que le gouvernement n'a pas abandonné. Bunagana reste bien une ville congolaise. Elle sera reconquise. Et ce qui se passe sur le front, c'est que chaque jour, il y a de révélations sur le terrain des combats qui démontrent que il y a encore de pays étrangers qui sont derrière nos troupes et qui parfois nous prennent en étau. Donc ce qui se passe, c'est une stratégie militaire, mais ce que les Congolais doivent savoir, c'est que nos forces armées de la République démocratique du Congo se préparent à reprendre définitivement Bunagana et mettre hors d'état de nuire tous ces envahisseurs qui continuent à l'occuper. Donc cela se passe dans toute guerre, reculer pour me sauter.
Plus d'un mois, c'est quand même
ne
beaucoup.
Vous en faites pas, madame, c'est une question militaire. On ne va pas dévoiler les stratégies militaires ici. Les forces armées ont besoin de se réorganiser. Ce qui est en train d'être fait est que ces gens-là finiront par sortir de terre congolaise. Voilà.
Selon certaines indiscrétions, la RDC s'est engagée sur le front politique et diplomatique, notamment avec le Rwanda et même l'Ouganda, raison pour laquelle les FARDC sont sommés de respecter l'appel de cessez-le-feu pour donner la chance à ce processus.
Le cessez-le-feu par rapport
demandé
à qui, madame? Il n'y a pas de
cessez-le-feu.
Mais il n'a qu'à demander à ses groupes. S'il a demandé aux groupes qui combattent pour le compte de son pays, on peut le comprendre. Mais madame, pouvez-vous m'expliquer comment un chef d'État étranger peut-il demander un cessez-le-feu pour le compte d'une armée qui n'est pas
vous
de son pays?
Vous l'avez plutôt consulté pour
non,
avoir
madame.
Une solution
non, non, non,
à ce
non.
problème.
Aujourd'hui, je peux me permettre
le
de clarifier, madame.
Le président a envoyé une délégation
en Ouganda. Je peux profiter de vos antennes pour lever cet équivoque. Et je prends toutes mes responsabilités. Ce qui s'est passé, c'est que c'est le président rwandais qui a pris l'initiative de solliciter une délégation de la République démocratique du Congo parce que, selon lui, il avait un conseil à donner. Et c'est dans ce sens-là que le président de la République... Je parle bien du président ougandais. Vous avez vu un ministre du gouvernement partir avec une délégation à la demande du président Yoweri Kaguta Museveni.
Pourquoi c'est pas le ministre des Affaires étrangères qui...
Madame, il a demandé une délégation.
Oui.
Okay?
Le ministre des Affaires étrangères pouvait aller avec une délégation.
Mais madame, le gouvernement n'est pas représenté que par un seul. Et s'il s'agissait d'une question par des voies, il serait passé par des voies ordinaires, par la voie diplomatique, on lui aurait envoyé le ministre, mais c'est lui qui était là.
Le choix
et il appartient dans
le...
C'est un membre du gouvernement, madame. C'est un membre du gouvernement comme tous les autres. Lorsqu'un empêchait, un autre peut représenter pour le compte du même gouvernement. Cela se fait au vu et au su de tout le monde. Nous voulons lever cet équivoque que c'est à la demande du président Yoweri Kaguta Museveni que le président de la République a dépêché une délégation de la manière la plus officielle. Donc il y a une manipulation pour dire que ce n'est pas la République démocratique du Congo. Et lorsqu'on vous invite, la moindre des choses, c'est d'y aller. Parce qu'on a dit aujourd'hui que le résultat obtenu, c'est qu'on connaît désormais les vrais acteurs, les interactants dans cette crise. Lorsqu'un chef d'État voisin demande une équipe, on la lui envoie. Et lorsque celle-ci arrive, le discours change pour dire que c'est la République démocratique du Congo. Non, madame, je l'ai dit sur vos antennes et j'espère que les sources diplomatiques ougandaises sont en train de nous écouter par rapport à ce que nous disons. Donc, c'est cela la vérité. Il faut la rétablir. Mais le point de vue du gouvernement congolais, de la présidence de la République est connu. Il est hors de question de pouvoir engager un dialogue avec des groupes armés qui agissent pour les comptes des intérêts étrangers. Aujourd'hui, les vrais acteurs sont connus. Ceux qui se battent à l'interne, qu'on appelle les groupes armés locaux, ceux-là ont été tous consultés, ils se sont exprimés librement sur vos antennes, et on connaît leur point de vue, ils se rangent derrière le président de la République et s'inscrivent dans le processus de reddition volontaire. Les réfractaires, qui aujourd'hui ne sont en réalité que des bras armés des pays étrangers, pour cela, il y a également une résolution prise au niveau du Kenya par rapport au conclave du chef d'État. La solution est connue pour cela. Ils partiront tôt ou tard par deux armes.
Ils partiront tôt ou tard par les armes. Mais ne pensez-vous pas, Giscard Koussema, que cette situation risque de faire perdre au gouvernement sa crédibilité aux yeux de la population?
Crédibilité par rapport à quoi? La population congolaise n'est pas dupe. La population congolaise, non, ce n'est pas l'impression de la population. Vous ne l'avez pas interrogé.
Gression. Je peux vous assurer Raymond, que parmi la population, les réactions que j'ai reçues, beaucoup en tout cas, pensent que le gouvernement a abandonné cette
idée. Ok, laissez-moi répondre justement à cela. La situation que connaît la République démocratique du Congo remonte d'il y a plusieurs décennies. Ce n'est pas une situation qui a été créée par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bien au contraire, il a mis tout le moyen pour qu'aujourd'hui, on connaisse en réalité qui sont les vrais acteurs sur le terrain, qui sont les instigateurs de tout ce qui arrive à notre pays. Et que tous les jours, le gouvernement se déploie. Il est vrai que depuis quelque temps, nos forces armées sont en train de s'organiser pour une action beaucoup plus punitive que le précédent, dans le seul objectif de pouvoir libérer nos villes qui sont aujourd'hui prises en otage par des groupes armés étrangers. Donc cela, la population doit le savoir. Il s'agit ici des stratégies militaires. On ne viendra pas ici sur l'antenne de Radio Capi pour dire voilà, aujourd'hui nous sommes le mercredi 20 juillet, voici ce que les FRDC sont en train de préparer. Non, dans les jours qui suivent, ils sauront pourquoi il y a eu ces replis stratégiques, parce que ce qui compte pour eux, c'est le résultat par rapport à une situation d'il y a plusieurs décennies. Et puis aussi, nous voulons vous dire qu'à l'instant, il y a un soutien diplomatique non moins important que le président de la République vient d'obtenir, c'est que pour la première fois, le roi de Belge vient d'adresser un discours à la nation, le discours traditionnel du 21 juillet, et pour la première fois, il appelle la communauté internationale à se mobiliser pour trouver une solution à ce qu'il appelle, lui, la crise meurtrière de la République démocratique du Congo, et dont lui-même a été témoin des rafles lors de sa tournée. Voilà ce qui a sollicité aujourd'hui, ce qui s'ajoute à ce que le chef de l'État a déjà obtenu. Donc, pour dire, madame, que la situation aujourd'hui nous permet de savoir qui sont les vrais acteurs. Il faut connaître les interactants, il faut connaître les problèmes pour trouver une solution idoine. Et le président de la République a réussi aujourd'hui à mettre à nu tous ceux qui opéraient sous le label de groupes armés, madame.
Merci, Giscard Koussema. On va prendre ces nombreux auditeurs qui nous appellent sur notre standard. Emmanuel Ngahouye-Mozi, je rappelle que vous êtes député provincial élu de Rutshuru, au Nord Kivu. On va prendre pour vous cette réaction qui nous vient d'Uvira, au Sud Kivu.
Jacques Biaounda Diamès, depuis Uvira, au Sud Kivu. En proposant de négocier avec le mouvement M23, notre gouvernement est tombé dans son propre piège. Comment expliquer au peuple congolais qu'un mouvement déclaré terroriste par le chef de l'État soit ramené à la table de négociation quand on sait bien que le Rwanda et l'Ouganda sont derrière ce mouvement et par contre n'ont jamais négocié avec leurs groupes armés présents dans la région des Grands Lacs. Le mieux à faire était d'abord de mobiliser le peuple congolais et son armée en vue de déloger d'abord l'ennemi hors du territoire national et revoir autre chose après.
Emmanuel Ngahouye, vous êtes en ligne. Comment vous réagissez au propos de cet auditeur qui nous a appelé de d'Uvira au Sud Kivu?
Ah, merci beaucoup. Je vais peut-être combiner cette la réponse à Monsieur Jacques à une affirmation faite par l'un des co-débatteurs, l'autre co-débatteur qui n'est pas Giscard, qui a dit que la solution militaire semble montrer ses limites. En fait, il se remarque sur le terrain, je crois que mon co-débatteur là, peut-être il ne vit pas au Congo, ou s'il vit au Congo, il vit à plus de 2000 kilomètres, comme l'avait dit une autre personne, du lieu du combat. Ceux qui sont à Rutshuru témoignent la force de frappe de nos militaires et de tous les résistants et de toute la population déterminée à en découdre. Et la force est vraiment visible. Et comme moi je suis proche de ces pays voisins en tant que natif de Jomba, même nos populations qui sont déplacées vers l'Ouganda, ils nous disent comment les militaires de l'Ouganda qui viennent après avoir été battus, félicite la bravoure de FARDC. Nos forces armées sont fortes et capables de défaire l'ennemi. Et donc, aujourd'hui, penser négocier avec l'M23, c'est encore une fois humilier la population congolaise. La population congolaise qui pensait que le président Tshisekedi, qui est issu de la vraie démocratie, devait lui démontrer cette capacité à pouvoir conjuguer avec la population pour lui restituer vraiment son honneur. Et donc, les FARDC également seraient humiliés si les M23 et ses agresseurs sont négociés, parce que les FARDC se comportent très bien sur le terrain, et même s'il y a des petits problèmes qui peuvent arriver partout, ce sont des problèmes qui peuvent être réorganisés, mais nos forces sont capables de se démarquer. Je voudrais alors, à ce sujet, ajouter que le président Tshisekedi, dans sa diplomatie, il oublie un élément important, et cet élément important fait que les guerres ne finissent pas. Cet élément, c'est la garantie des criminels, des personnes qui ont endeuillé le Congo, qui continue à bénéficier de toute l'impunité à cause du président ougandais et rwandais. Et ces personnes, au lieu de les mettre devant la justice, on cherche pour eux un lieu de positionnement. Alors que plusieurs rapports montrent que ce sont des criminels patentés, attitrés, dont leur place se retrouverait en prison. Et aujourd'hui, on leur donne des micros, on leur donne des places, pour réclamer des positionnements politiques et militaires. Cela fait en sorte que la population continue à penser qu'elle reste dindon de la farce.
Maître Rigel Miviri, on va prendre aussi pour vous cette autre réaction qui nous vient de Mbujimayi dans la province du Kasaï oriental.
Moïse Malaou, depuis Mbujimayi dans la province du Kasaï oriental. La situation sécuritaire dans la partie est de notre pays est très préoccupante. Exiger le dialogue après le retrait de M23 de la cité de Bunagana, c'est une bonne chose, mais le gouvernement ne doit pas compter sur l'appui des pays de la région qui sont en cartel pour profiter de la mauvaise situation en pillant nos ressources naturelles. Lorsque l'on exclut le Rwanda, il est certes absent, mais il est représenté par l'Ouganda, soit le Kenya, pour se partager les gâteaux à prix. Mettons tous nos moyens pour appuyer les FARDC notamment, en réduisant les dépenses des institutions qui sont en parfait dépassement pour sauver le Congo. Nous sommes déjà en état de guerre, même si cela n'est pas déclaré ouvertement par le gouvernement. Au finish, où sommes-nous avec la fameuse promesse de l'installation de l'état-major général des FARDC dans l'est de notre pays?
Rigen Miviri, brève réaction.
Ouais, je suis tout à fait d'accord avec l'auditeur quand il parle de la force régionale. On l'a dit déjà, en fait, la force régionale n'est pas une solution. Pour tout analyste qui a pu voir ce qui se passe sur le terrain et qui a vu en fait les limites des démarches régionales militarisées. Et donc,
Selon lui, il faut que le pays se méfie du Rwanda et de l'Ouganda, contrairement à votre proposition de voir la RDC négocier avec ces deux pays.
Oui, je n'utiliserai pas le mot négocier, mais il s'agit de parler avec les États. Même les États qui sont en guerre, même en pleine guerre, les États continuent à se parler. Donc, je trouve ça normal. Mais maintenant, à ce qui concerne la force des FARDC, c'est qui faire tout pour récupérer Bunagana, faire tout pour faire respecter l'intégrité territoriale. Bien sûr, ça c'est le droit le plus légitime de chaque État. Et donc, je ne suis pas en train de dire que quand on est en train de faire des démarches diplomatiques, qu'il ne faut plus en fait jouer ce rôle à chaque État pour faire respecter son intégrité territoriale. D'ailleurs, ça devrait être ça la première des choses sur laquelle le gouvernement congolais devait se concentrer. Faire en sorte que notre armée soit en capacité de faire face à toute cette menace. Moi, je suis lucide, il faut reconnaître en fait les forces et les limites de notre armée. Et ces limites-là, ce n'est pas parce qu'on a une mauvaise armée, mais peut-être parce qu'on n'est pas assez bien préparé, ou peut-être parce qu'on n'a pas priorisé l'armée comme le bouclier de toute une nation. Donc, le gouvernement doit miser beaucoup sur l'armée, et ça signifie aussi la réforme de cette armée du point de vue de son contenu. Donc, s'il y a des militaires qui sont recherchés par la justice, qui ont été accusés des abus, ça, c'est des choses qu'il faut changer. Soutenir l'armée, c'est important, mais en fait, il faut être lucide par rapport à cette armée-là, parce qu'exactement, ce sont ces problèmes-là au sein de l'armée qui la rendent, en fait, parfois inefficace pour faire face aux menaces de cette nation. Bien sûr, on a des élèves armés, comme l'armée nationale, mais en fait, cette armée-là, il faut la mettre dans des positions de défendre l'intégrité nationale.
Merci, Maître Rigen Miviri. Jusqu'à Koussema, on va prendre aussi pour vous cette dernière réaction qui nous vient de l'Équateur.
Maître Edmond Bokolo, depuis mon arrivée de l'Équateur, le gouvernement congolais comprend que négocier avec le M23 pendant qu'ils ont élu domicile à notre sol est un véritable danger pour l'intégrité territoriale, surtout que ce mouvement M23 est soutenu par la République rwandaise. À cet effet, sportivement, nous soutenons la démarche de notre pays, car négocier avec ces rebelles dans cette position constitue une certaine faiblesse de notre part. En même temps, tous, nous sommes derrière nos forces armées, à qui nous demandons de repousser militairement tous les membres du M23 jusqu'à ce qu'ils regagnent leur pays, qui est le Rwanda. Par le présent message, nous invitons la population congolaise, toutes tendances confondues, de s'aligner derrière le chef de l'État afin de gagner ce combat contre les ennemis de la République.
Votre point de vue par rapport
non,
à...
Nous comprenons, nous respectons ce point de vue. Nous voulons dire ici que l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo n'est pas négociable, ni avec le M23, ni avec n'importe quel pays, quel qu'il soit. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, tous ceux qui envahissent la République démocratique du Congo, dont la plupart sont d'ailleurs coupables de graves crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, répondront un jour. Troisièmement, nos forces armées de la République démocratique du Congo ne sont pas prêtes à accueillir des personnes dont le seul exploit est leur capacité de nuisance. Donc, il s'est révolu ces temps où le galon était distribué par rapport à à la capacité des forces d'occupation. La situation que nous vivons aujourd'hui est la conséquence justement de ces multiples brassages, mixages et tout ce que vous pouvez appeler. Donc la ligne rouge, elle est là. Le président de la République est clair. Tous ceux qui combattent contre leur gouvernement, les groupes armés locaux ont été approchés et ont donné leur accord pour une réintégration à travers le PDDRCS.
Alors, jusqu'à Koussema, voilà. On retient, ça sera votre conclusion, que le président de la République est contre toute négociation avec le M23, c'est la force qui sera utilisée.
C'est clair, madame, cela est le point de vue du président de la République. Il a été également repris par tout le chef d'État de la East African Community. Il y a le volet réservé aux groupes armés locaux qui ont accepté de déposer les armes et s'inscrire dans le programme PDDRCS. Pour tous les autres groupes armés étrangers, l'appel leur a été lancé de regagner leur état d'où ils sont venus. Et il y a des pays aujourd'hui qui ont montré des signaux positifs. Nous citons ici le Burundi qui a accepté de pouvoir parler avec ces groupes qui sont dans la plaine de la Ruzizi. Nous attendons la même chose pour le Rwanda avec ses FDLR et l'Ouganda également avec ses ADF. Donc il est hors de question pour qui que ce soit de pouvoir demander au président de la République, à la République démocratique du Congo, d'aller négocier avec les M23 alors que les ADF attendent aussi de négocier avec leur pays d'origine. Merci. Tout comme les FDLR et les Interam qui commencent les négociations avec les Rwandais.
Merci Giscard Koussema. Emmanuel Ngaoui et Mozi, qu'est-ce que vous pensez de la conclusion de Giscard Koussema qui a donné le point de vue du président de la République? C'est la force qu'on va utiliser pour mettre fin à cette situation d'insécurité qui a trop duré.
C'est en fait la demande de la population, et la population, le président de la République ne doit pas avoir peur de cette option qui est soutenue par la population locale, parce qu'elle est vraiment fatiguée des subterfuges de ces pays agresseurs qui multiplient des groupes armés pour continuer à piller, pour continuer à pérenniser la pauvreté en RDC. Et la population est prête à accompagner, et en conséquence, elle ne demande qu'au chef de l'État de pouvoir mettre les bouchées doubles pour que le FARDC puisse en découdre le plus rapidement possible avec ses ennemis de la paix, et que toute la diplomatie soit orientée dans le sens de pouvoir démontrer, de pouvoir obtenir le soutien de FARDC pour en découdre définitivement contre ces gens et obtenir que ces gens soient sanctionnés, parce que leurs crimes sont des crimes innombrables dans la région des Grands Lacs.
Merci Emmanuel Ngaoui. Maître Rigen Miviri, votre conclusion.
Oui, merci beaucoup. Tout ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il ne s'agit pas simplement de déclarer que voilà, nous allons prendre l'option militaire ou nous choisissons l'option militaire, mais il faut en tout cas se donner le moyen, en fait, pour être capable de faire respecter l'intégrité territoriale. Et c'est ce que la population demande au gouvernement depuis toujours, même au sein de l'armée, c'est une demande qui est croissante. Et donc, le gouvernement congolais doit faire tout, en fait, pour répondre à ses responsabilités. Ce n'est pas suffisant de toujours de trouver les responsables de nos...
Il est parti sur un problème de ligne téléphonique. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer cette émission. Merci également à nos invités, Giscard Koussema, Emmanuel Ngaoui Mozi et Maître Rigen Mibiri. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. La mise en onde était assurée par Jean-Noël Mokondo. Présentation et coordination, Kelly Nkouté. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.